franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Nous concluons cette semaine dans le Bas-Rhin avec deux nouveaux interlocuteurs, François Corman et François Schreiber. Oui, on a choisi la thématique François aujourd'hui. Le premier, j'évite de dire François Ier, est cofondateur d'un des plus grands et des plus complets ateliers partagés, visités par les Carnets cette année. Il se situe dans le quartier de Königshofen à Strasbourg et il offre ses machines sur 1500 mètres carrés d'ateliers sous le nom de la Fabrique, à découvrir, à lire en parallèle dans les pages numériques de La Vie. Le second, François, est un musicien, enseignant, paysan, bistrotier, animateur, clarinettiste. François Schreiber se présente au bac pro il y a quelques années en agriculture. Il lance la première ruche qui dit oui en Alsace. Il planche ensuite sur un projet de bistrot, épicerie, atelier, salon à Plobsheim, prolongé par un Biergarten dans le jardin. Il n'y a qu'en Alsace, enfin, on m'a dit en Angleterre, il y a un équivalent, mais il n'y a qu'en Alsace où on trouve quand même des Biergarten, des jardins à bière ou des terrasses à bière, comme vous voulez imaginer des terrasses à vin dans le Médoc. Ça paraît insensé. Quoi qu'il en soit, le bistrot de François, qui s'appelle Made in France, est ouvert depuis bientôt 2 mois et nous nous y rendrons dans la seconde partie de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
François Corman, bonjour.
Bonjour.
François, il fait froid chez vous ?
Ah, pas du tout. C'est l'Alsace qui fait très, très chaud.
Ben non, mais vous êtes dans une ancienne glacière de brasserie, alors.
Alors ça, si vous parlez de la Fabrique, ça c'est sûr.
Et alors, réellement, vous êtes dans les anciennes glacières de la brasserie Gruber à Königshofen ?
Exact. C'est un lieu qui a eu ses heures de gloire entre 1850 et 1950. On a fabriqué de la bière pour le Kaiser, entre autres. Et
ça ressemble à quoi, comme espace ?
Ça, c'est difficile à décrire. Quand on fait visiter, ça commence par une petite pièce qui fait 200 mètres carrés, puis des petits tunnels, et puis ensuite des grands, ce qu'on appelle des travées, qui font 100 mètres carrés chacune, on en a 9. Au total, il y a 1500 mètres carrés de potentiel.
Ouais. Un potentiel donc que vous avez investi avec la Fabrique, atelier de fabrication partagée. Donc on est à l'ouest de Strasbourg, hein, Königshofen.
Oui.
Et ça fait 20 ans que le projet trotte dans votre tête.
Au moins. Ça a commencé par une affiche dans la cour de, dans le sous-préau du lycée où il y avait marqué « Venez fabriquer vos fusées ». Et j'ai fait partie des gens qui ont eu la chance de participer à tous ces clubs scientifiques, etc. Et à la fin de l'aventure, on avait tous 30 ans, on avait un peu autre chose à faire que des fusées, mais on s'est dit qu'on avait vécu vraiment un truc magnifique, qui était un endroit où on partageait nos connaissances, on avait un atelier qu'on gérait, et on avait appris sur le tas des tonnes de choses, comme la gestion de projet. Moi, personnellement, la mécatronique, c'est comme ça que je suis devenu prototypiste. Et avec les camarades de l'époque, on s'est dit c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir réitérer d'une manière ou d'une autre. Les fusées, c'est bien, mais je pense que l'idée, c'est de pouvoir faire presque n'importe quoi, comme le dit Niels Gerson dans les Fab Labs.
Et alors, c'est né récemment, après quand même 20 ans de réflexion. Ça veut dire que vous avez été porté par ce que certains pourraient considérer comme étant une mode, ou d'autres, peut-être plus sincèrement, un besoin des populations d'ouvrir un Fab Lab, un atelier de fabrication ?
Les deux. Parce qu'en fait, quand il y a 20 ans, j'amenais l'idée devant les municipalités, on me regardait avec des yeux énormes en disant « Quoi ? Un atelier partagé ? Mais bon, pourquoi faire ? C'est fou. » Et c'est vrai qu'en 2013-2014, quand l'idée a germé chez 3 d'entre les fondateurs, dont moi, c'était plus pareil. Tout le monde ne parlait que de ça. Et puis déjà à l'époque, on s'est dit « c'est pas vraiment un Fab Lab qu'on va monter ». Et ce vers quoi on tendait, notre modèle qu'on a essayé de hacker, en bon hacker, c'est plutôt le modèle du tech shop, quelque chose qui n'était pas connu du tout à l'époque.
Ah oui.
Et quand on disait que je veux monter un tech shop, les gens me disaient « Quoi, tu veux monter un tech shop ?»
Oui, c'est ça. Oui, parce que j'ai jamais entendu le terme. Un tech shop ?
Alors, tech shop, c'est, à l'époque, c'était absolument inédit. Ça existe depuis 2006, hein, c'est Jim Newton qui est le papa et l'inventeur de ça. Et maintenant, c'est connu, il faut aller voir le tech shop à Ivry en collaboration avec Leroy Merlin. Qu'est-ce que c'est un tech shop ? C'est une espèce de supermarché du fer, F-I-R-E. Oui. C'est un endroit où il y a des machines industrielles. Et moyennant un abonnement, on a accès à ces machines. Et le modèle économique, c'est celui d'une salle de sport, des cours et des abonnements. Oui. Nous, on s'est dit que sur le vieux continent tel quel, ça pouvait pas le faire. Il fallait avoir à bord un esprit communautaire, pouvoir s'asseoir sur un nombre important de gens qui étaient là par passion et qui donnaient vie au lieu. Mmh. Et pour avoir eu la visite des responsables de Leroy Merlin qui cherchent à ouvrir le deuxième tech shop, Leroy Merlin a ouvert très récemment, il y a quelques semaines.
Ouais, leur faites pas trop de pub, hein, nous on parle de la fabrique hein, quand même. Là, vous pointez du doigt un vrai problème, c'est qu'à partir du moment où il y a une initiative, comme on dit, de citoyens ou de personnes de la société civile, ça marche, c'est intelligent. Vous, c'est drôlement bien agencé sur les 1500 mètres carrés, mais il y a des grands groupes de commerciaux qui sont intéressés et qui vont, excusez-moi, vous bouffer l'espace.
Alors en fait, ils peuvent amener les machines, ils peuvent amener le confort qu'on n'a pas, mais ils ne peuvent surtout pas amener tout ce qui existe déjà, c'est la communauté qui est là. Et qui travaille et qui participe, chacun à la hauteur de ce qu'il peut, de comment ça doit fonctionner. Les gens qui ont besoin de faire quelque chose, quoi que ce soit, et ça va d'une personne qui a besoin de couper une planche, on accueille celui-là aussi, oui. À quelqu'un qui vient s'installer professionnellement, un artisan. Mmh. Donc ça veut dire qu'il rentre des clients, il peut facturer, et quand il a un client et une affaire à faire, il fabrique à la fabrique, il installe chez le client. Une partie de son chiffre d'affaires est pris et récupéré par la CAE. Et du coup, ben, c'est quoi l'avantage ? Il n'a rien déboursé en termes d'investissement. Il est libre comme l'air par rapport aux banques. Et ça, c'est juste énorme.
Absolument. François, on ne pourra pas tout raconter, mais vous nous avez mis l'eau à la bouche. Le site, c'est lafab.org. La même adresse pour la page Facebook. Merci, François.
Merci à vous et magnifique émission.
Merci.
Je prends pour dernière grande illustration des alternatives collectives choisies dans le Bas-Rhin un ensemble d'actions qui rejoignent les démarches entreprises par nos deux invités du jour. C'est Emmanuel qui est à l'origine de cette information puisqu'il est membre de l'association Éco-Quartier Strasbourg. Ce collectif d'habitants, de sympathisants et d'associations intervient dans le Neudorf à la création d'une maison citoyenne. Créée en 2001 par des habitants d'Écologie, première opération d'habitat participatif à Strasbourg, l'association promeut des actions exemplaires d'urbanisme et puis elle s'investit dans la transition des territoires, dans la création d'une monnaie complémentaire. À Strasbourg, la monnaie s'appelle le stuc, un petit morceau, le stuc, et dans l'ouverture de lieux d'initiatives citoyennes. Et depuis 4 ans, l'association s'est enrichie de 3 collèges, habitat participatif, copropriété en transition et le troisième terrain d'initiative citoyenne. C'est évidemment le troisième collège qui en charge le programme Éco-Quartier Strasbourg à l'origine d'une association du même nom. La maison citoyenne, c'est une maisonnette à colombage à 2 pas du centre administratif de Strasbourg que la CERS, la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, a mise à disposition de la structure. Le projet de réhabilitation a pour fin de créer un café associatif, des bureaux, des salles de réunion, et puis un terrain adjacent servira d'espace de production maraîchère et potagère. Lié à l'association Biodiversité pour tous, Éco-Quartier Strasbourg participe de cette façon à la protection des lieux de plantation au cœur de la ville. Le site, c'est maison-citoyenne.org. Comme promis prévu, à Plopsheim, nous rejoignons François Schreiber. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
François, vous êtes l'inventeur avec votre compagne Anne d'un... Alors, je sais pas si on peut le résumer à bistrot épicerie salon parce que ça fait un peu court à Plopsheim qui s'appelle Made in France avec un... Alors c'est fait par François mais c'est aussi Made in France?
Alors c'est Made in très local en fait vu que nous travaillons avec des producteurs locaux depuis maintenant 5 ans par le biais de La Ruche qui dit oui, qui est une plateforme qui met en lien et en réseau des producteurs et des consommateurs. Oui. Et nous avons à côté de chez nous une grange de 1825 que nous avons pu rénover en matériaux locaux avec des artisans du coin. Et nous y proposons dorénavant donc une restauration simple à base de produits locaux, donc de ces producteurs qui, avec lesquels on travaille maintenant depuis 4-5 ans.
Vous concernant, François, vous êtes clarinettiste et enseignant ?
C'est ça. Alors, la page de l'enseignement se tourne. J'ai donné des cours et j'ai œuvré en tant que musicien pendant une quinzaine d'années,
oui.
Jusqu'à l'année dernière. Et donc, l'ampleur du projet et les besoins du chantier m'ont fait ranger ma clarinette, du moins temporairement, je l'espère. Et j'espère pouvoir la ressortir quand tout tournera bien au Bistrot Biergarten, d'autant que nous avons... aménager une petite scène de 18 mètres carrés et un petit espace de danse dans lequel on espère bien pouvoir faire quelques petites soirées sympathiques.
Ouais, alors explication, vous venez de parler de Biergarten parce qu'il y a quand même une tradition, j'ai vu que des Stammtisch réouvraient en Alsace. Le Biergarten, c'est quoi ?
Le Biergarten, donc littéralement jardin de bière,
ouais, hein, oui.
c'est une tradition germanique, mais comme on est à deux pas de la frontière, on se disait que ça pouvait, fédérer aussi de par chez nous. Et donc cette tradition de la Stammtisch, c'est simplement une table à laquelle s'asseye toutes les personnes, toutes origines sociales confondues, pour boire une bière ou un verre, manger un morceau de gâteau et puis échanger sur la pluie, le beau temps ou sur d'autres choses.
Ouais, mais vous avez quand même une idée autre dans la tête, parce que j'imagine il y a beaucoup de localités aujourd'hui en Alsace qui donnent l'exemple. Je ne sais si c'est le cas de Plopsheim. Il y a beaucoup de communes en transition. Est-ce qu'on est dans cette perspective de transition?
Et en cela, la Stammtisch permet également aux gens de se réunir, de débattre de sujets de société ou d'enjeux ou d'alternatives qui sont, je pense, d'actualité et importantes pour la suite. Mmh. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est un projet en fait global en termes de restauration de la grange. On a souhaité faire travailler l'économie locale, donc les artisans du coin, en utilisant des matériaux locaux, tout en employant également des personnes du village ou qui habitent à proximité.
Et pour assurer ce changement de partition, vous, le musicien, vous avez passé un bac pro en agriculture ?
Tout est parti en fait de la naissance de nos enfants en fait. On s'est posé la question d'une alimentation plus saine. On s'est du coup tourné vers des producteurs locaux. Et moi, quand j'ai vu quelles étaient leurs contraintes, quelles étaient leurs manières de travailler, et quand par la suite on a souhaité faire des distributions hebdomadaires de produits locaux avec la ruche qui dit oui, j'ai voulu aller plus loin. Et donc j'ai, sur mon temps libre, passé effectivement un baccalauréat en exploitation agricole. Et donc ça me permettait d'aller sur le terrain, de discuter avec les producteurs en sachant de quoi y parler en fait.
Le lieu 100% circuit court, on peut s'y désaltérer mais participer aussi à des ateliers culinaires, profiter de concerts, peut-être qu'on entendra la clarinette de François, profiter des tartes flambées, et puis surtout vous allez être sur le passage, alors vous êtes une étape sur le passage du Tour de France à vélo des fermes d'avenir dans quelques jours.
Oui, tout à fait, on est très contents qu'ils viennent nous rendre visite et on espère pouvoir travailler en collaboration avec eux par la suite.
Ouais, c'était l'histoire d'une nouvelle vie, celle de François par Made in France à Plopsheim. Le lien, vous allez le trouver à notre page, il y a une page Facebook, il y a aussi le compte Kiss Kiss Bank Bank qui vous a permis de boucler le projet de récolter 15 000 euros. Et puis vous aurez un lien aussi avec Ferme d'Avenir. Merci François.
Merci Philippe.
Je vous annonce les rencontres nationales de la librairie. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les deux ans, bisannuel. Il concerne l'avenir de la librairie indépendante, un enjeu économique, social et culturel au cœur des villes et des territoires, dans les quartiers. Ces rencontres auront lieu à La Rochelle dimanche et lundi 25 et 26 juin. Il y a un site, avis à tous les libraires, les rencontres nationales de la librairie.fr. Notre ministre, nouvelle ministre de la culture,
tout, Françoise Nyssen sera présente à ces rencontres lundi prochain. Et puis un rendez-vous, parce que j'ai souvent présenté le travail de Pascal Cobert, journaliste, photographe, renifleur de temps à Grenoble, comme il s'appelle. Il fait un livre remarquable, un magazine-livre qui s'appelle L'Alpe, sur le patrimoine des paysages, de la société des Alpes, de toutes les Alpes confondues. Et il est également photographe, il a longtemps couvert le jazz, pendant 30 ans pour Jazzot en particulier. Et jusqu'au 17 septembre, vous pouvez voir son expo de 123 portraits de musiciens du jazz saisis autour de la planète. C'est au musée de l'ancienne évêché à Grenoble. Son travail est remarquable. Il y a un bouquin qui est paru, qui est préfacé par Marcus Miller. Oui, j'arrête. Merci à Juliette Gouin-Fessigne, à Joël Levert, à Serge Viguier, dont je ne peux pas saluer tout le monde.